Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, une des sessions très attendues puisque nous avons l'honneur d'avoir avec nous Xavier Fontanet. Bonjour Xavier.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes l'ancien président des Silor, vous êtes aujourd'hui prof dans de nombreuses grandes écoles pour justement nous faire part de votre expérience et nous donner des cours de stratégie des entreprises. Et justement, cette semaine, on va parler d'un sujet dont on n'a pas souvent parlé, c'est le rôle du régulateur, qui n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. C'est pas juste pour casser un peu les marchés, casser la concurrence, faire plus de concurrence justement et casser l'antitrust. On va essayer de comprendre tout ça, surtout qu'on a des exemples. Hein. On a des exemples, on a eu Alstom avec Siemens en France. Aux États-Unis, pour en prendre juste un exemple, c'est Apple qui vient même d'avoir une amende de 1,8 milliard. Donc on est vraiment dans l'actualité. Et on va essayer d'évoquer avec vous toutes les problématiques de cette antitrust et comment une entreprise doit en tenir compte dans sa stratégie, hein, c'est ça ?
Ben c'est exactement ça, Frédéric. Alors, d'abord, il faut être clair, de vous comme moi, on est complètement pour l'existence d'autorité de la concurrence.
Quoi qu'il arrive.
S'il n'y a pas d'autorité de la concurrence, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas jouer. Et donc, c'est très important d'avoir des autorités, d'avoir des règles bien foutues. Et leur problème est assez compliqué, on va le voir, parce que ça demande pas mal de modestie pour regarder tout ça. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est voir, à travers tout l'arsenal conceptuel qu'on a développé par BFM Stratégie, avec les cours d'expérience, les cours de substitution, qu'est-ce que ça apporte à toutes ces discussions. Donc, on va répondre au cas que vous évoquez sur Apple et sur Alstom, mais prenons du temps.
Oui.
Commençons par jeter des pieds, les bases du système, et on y viendra.
Hein. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, on va remonter à la révolution industrielle, puisque c'est à ce moment-là où on a vraiment vu apparaître des géants. Et puis, à un moment, ils avaient vraiment une position dominante, et il a fallu mettre en place des choses de régulation concurrence. On est à quelle époque, là, à
Alors,
peu près
effectivement, vous avez entièrement raison, il faut reprendre l'histoire. Il faut se mettre aux États-Unis, et en gros, c'est 1890, c'est le Sherman Act. Mm-hmm. C'est le premier moment où on a vu apparaître des boîtes gigantesques à l'époque, et donc les Américains ont créé des autorités de la concurrence, c'était le Sherman Act, qui visait effectivement sur les monopoles. Et il faut savoir qu'au début, ça a été extrêmement violent, puisqu'il y a eu des très grandes entreprises qui ont été démantelées. Il y avait des chemins de fer, Morgan, c'était la fortune des Morgan. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre ? Il y a eu Dupont de Nemours, vous voyez, il y a eu Standard Oil, qui était coupé en morceaux.
Le tabac aussi,
American Tobacco, donc vous avez entièrement raison. Il y a eu donc beaucoup de... Et ça, c'est dans les années 1900-1910. Alors après, il y a eu la crise de 1929.
Donc position dominante et
éclater. Ils ont été carrément cassés les monopoles en morceaux. Hein, bon. Et après, il y a eu la crise donc de 1929, là ça s'est calmé, il y a eu la guerre. Et donc les autorités ont recommencé à travailler aux États-Unis dans les années 50-60. Alors il y a eu deux cas assez fameux ITT, le conglomérat ITT. Donc il y a eu aussi IBM. Alors ça n'a pas donné...
Il y a eu IBM et ITT.
ITT.
Et puis il y a le ATT, le AT&T.
C'est exactement ça, c'est votre secteur. Effectivement, donc ATT, je crois que c'est en 82 ou en 84, ils ont cassé ATT en 8 morceaux.
Qui était un opérateur télécom.
Télécom,
7-8 morceaux, on appelait ça les Baby Bell.
C'est vrai
que c'était partagé un peu le pays, tout ça.
Ils sont partagés le pays. Donc l'autorité aux États-Unis, ça a quand même été assez musclé.
Et puis aujourd'hui, il y a plus quatre, ils sont revenus à quatre opérateurs.
Il y en a de nouveau, ça se remarie.
Alors, on parle des États-Unis. En France, alors je l'ai rapidement évoqué, il y a eu Alstom. Mais en France, c'est quoi la situation ?
Alors, on va commencer peut-être, on va aller les pièces les unes après les autres. Alors d'abord, on va commencer à regarder le texte. Alors ça, c'est vraiment les textes officiels. Les autorités de la concurrence visent à garantir les conditions d'une concurrence libre et non faussée entre les entreprises sur les marchés, afin de protéger le pouvoir des consommateurs. Donc, les autorités de la concurrence, c'est protéger le pouvoir des consommateurs. Donc ça, c'est le premier...
Avec ce risque, et on le voit aujourd'hui, on le dit, je vous conseille d'ailleurs de regarder Tech & Co, là, régulièrement, parce qu'on en parle, Tech & Co, le soir, entre 20h et 22h, on le dit, parfois, on protège le consommateur, mais on va ennuyer l'utilisateur, parce que du coup, on enlève des fonctions qui facilitent la fluidité, notamment l'usage des outils numériques. Voilà. Mais bon, il faut bien protéger ce consommateur. Alors, la logique derrière tout ça, quand même, au départ du notoriété de la concurrence, c'est que pour le consommateur, les prix soient, alors pas le plus bas possible, mais soient accessibles.
Voilà. Voilà, alors je vais vous prendre la théorie. Hein. On va prendre la théorie historique. Hein. En fait, c'est la théorie qui a fondé le Sherman Act. Hein.
D'accord.
Voilà. Alors vous voyez, alors on va revenir, mais ça vaut le coup de s'arrêter parce que c'est très puissant. C'est les fameuses courbes d'offres et de demandes.
D'accord. Hein,
donc ça, c'est le graphique que vous avez.
Donc si vous êtes en radio, on a d'un côté en abscisse le volume
et
en ordonnée
le prix. Alors la courbe d'offres, en gros, qu'est-ce qu'on fait pour faire une courbe d'offres? On va prendre toutes les usines, on commence à mettre les moins chères, et puis on met toutes les usines les unes après les autres. Évidemment, les dernières usines sont plus chères.
Oui.
Donc les courbes d'offres, elles sont en général elles montent.
Elles montent.
Hein,
la
donc
courbe
de
le demande, volume monte et le prix monte aussi.
Voilà. Hein. Les courbes de demande, c'est autre chose. On va demander aux consommateurs combien vous êtes prêt à payer et on reconstruit la demande en fonction des prix. Donc les courbes, plus le prix est bas, plus la demande est forte. Donc automatiquement, les deux se croisent.
D'accord.
Hein. Et le prix optimum, c'est le prix dans lequel la courbe d'offre croise la courbe de demande.
Ouais, il faut juste réussir.
C'est ça la théorie.
Réussir à bien catégoriser ça.
Alors, ça a été un peu plus loin, et le graphique, je vous demande de regarder très précisément.
Ouais, suivez-nous si vous pouvez, allez voir en replay.
Allez voir en replay.
Parce que là, on comprend tout quand on a ces graphiques sous les yeux.
Un beau dessin, ça vaut des longs discours.
Ouais.
Bon. Et alors, là, vous avez un surplus consommateur. Donc, c'est le rouge. Vous voyez, c'est tout ce que n'ont pas payé les consommateurs. Vous voyez, les consommateurs étaient prêts à payer plus cher. Il y a donc toute une partie que les consommateurs auraient dû payer plus cher, qui étaient prêts à payer plus cher.
Prêts à payer plus cher en plus.
Qui n'ont pas payé plus cher. C'est ce qu'on appelle le surplus des consommateurs. Ça, c'est en rouge. Puis en bleu, vous avez le surplus producteur. C'est-à-dire que vous avez toutes les courbes de coûts d'usine et le prix, il a été mis au-dessus des cours des usines les moins chères.
Mmh.
Donc, vous avez un surplus de consommateurs. Et donc, voilà toute la théorie. Vous avez
donc, on établit son prix entre ce que l'industriel va gagner en tant que producteur,
voilà,
et ne pas faire payer trop cher,
le client est prêt à payer,
voilà,
vous voyez, et donc en fait un équilibre donné, il y a une partie des producteurs qui font de l'argent et puis une partie des consommateurs qui payent moins cher que ce qu'ils auraient payé. C'est ça ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite.
D'accord.
Pure et parfaite, hein, voilà.
Et alors le monopole,
alors, voilà,
parce que
alors,
le monopole, lui, pourrait mettre...
Voilà. Alors, le monopole,
c'est ce que j'allais dire. Le monopole,
on a fait le dessin, regardez-le bien le dessin. Là, c'est le monopole, c'est une entreprise qui a pris sa puissance pour réduire un peu la demande en montant le prix. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ce qui est très intéressant qui se passe, c'est que le surplus de producteurs, vous voyez, c'est la partie bleue, elle est plus grande que tout à l'heure. Et le surplus du consommateur, il est plus petit.
Ouais.
Hein, et on fait apparaître la partie jaune, qui est la perte de la société. Donc en fait, la théorie de l'offre et de la demande dit quel est le prix juste. Hein, et évidemment, si on est à un prix qui est plus élevé que le prix juste...
On est en train de tuer le marché quelque part.
On tue le marché et puis on crée une perte pour la société.
Oui.
Vous voyez, c'est le jaune. C'est pour ça que c'est ça qui a été le substrat conceptuel qui a expliqué la lutte contre les monopoles. Hein.
Alors on retrouve, hein, j'imagine, on va retrouver nos premiers cours hein, ensemble sur la courbe d'expérience hein, qui montrait que... d'ailleurs, on a eu beaucoup de retours autour de ça, que la division par 1 million du prix des microprocesseurs en 50 ans. Alors, la courbe d'offres, c'est un outil... parfois qui est incapable d'expliquer vraiment les fondements des prix, on a du mal.
La courbe d'offre et de demande, c'était beaucoup plus ancien encore comme invention, hein, et servait surtout sur le blé, oui, les matières premières, donc c'est un truc qui a 250 ans.
Donc il fallait la courbe d'expérience.
Voilà, donc ça a vraiment servi.
Alors, rappelez-nous, la courbe d'expérience, elle permet
La courbe d'expérience, ça explique en fait que le prix de revient d'une entreprise, le prix de revient dépend de la production cumulée.
Ouais.
Hein, donc plus vous avez accumulé, plus le prix de revient est bas. Donc la grande invention de la courbe d'expérience, c'est que les prix entre les concurrents ne sont pas les mêmes et pas du tout les mêmes.
Mmh.
Alors, c'est ce qu'on voit justement sur la droite. On vous a mis la slide. Alors, vous avez la concurrence pure et parfaite. Ça, c'était ce que veulent les autres. D'ailleurs, ils aiment bien avoir beaucoup de petits concurrents qui vont se tirer des bourres avec des marges petites. On dit que c'est comme ça qu'on va gagner.
Oui.
Alors là, j'ai pris un exemple.
L'autorité de la concurrence, c'est ça.
Parce que les choses, évidemment, sont en train d'évoluer.
Plein de petits concurrents.
Plein de petits concurrents, et on appelait ça purée parfaite.
Mm-hmm.
Et en fait, les prix vont être près des coûts, parce qu'il y a beaucoup de concurrence.
Oui.
Voilà le truc. Hein. Alors le problème qu'il y a, c'est quand vous mettez la courbe d'expérience, et regardez ce qui se passe à droite. On met une courbe d'expérience, on va faire un marché dans lequel il y a 5 concurrents, hein, et pas 10. Il y en a un qui a 40 du marché, un deuxième qui a 20, un troisième qui a 10. Le prix de revient... Alors, vous savez, le cours d'expérience, c'est très concret. Hein, c'est pas abstrait, c'est concret.
Oui, on regarde
le prix de revient du leader, ça va être à peu près 80. La personne qui a 20% du marché sera à 100. Et celle qui a 10% sera à 125.
Mm-hmm.
Où est-ce que le leader met le prix? Bah, le leader, il va mettre le prix un peu au-dessus du coût du numéro 2. Et vous voyez qu'il va le mettre à 105. Alors, regardez le coût de théâtre. Hein. Alors, lui, il fait beaucoup d'argent. Hein. Il va gagner 25% sur chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Le numéro 2 va gagner 5. Et puis les deux numéros, ceux qui sont petits, vont perdre 20. Vous voyez, oui. Mais regardez le point important, c'est que le prix de marché va être beaucoup plus bas que dans le cas de la concurrence pure et parfaite. Ça, c'est un énorme truc.
Donc, ça veut dire parfois qu'il vaut mieux avoir moins de concurrents. Il faut une concurrence, mais il vaut mieux avoir moins de concurrents
et un gros leader.
Que plein de petits concurrents.
On reste dans le bon sens, il ne faut pas que le leader fasse des marges de 100%.
Oui.
Mais si le leader reste dans un peu de la sagesse, et s'il met le prix comme on l'a montré à droite, objectivement, on commence à dire, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Et ça, c'est fondamentalement les découvertes de la courbe d'expérience.
Il faut bien connaître la courbe d'expérience.
Il faut appeler un autre point,
et on reviendra tout à l'heure, parce que selon l'expérience, selon comment on voit évoluer ces produits, c'est aussi le champ géographique qu'il faut retenir.
Ah oui, alors effectivement, parce que là, vous avez raison, c'est que vous nous entendez tout le temps quand on parle de segmentation, de courbe d'expérience, il y a toujours un champ géographique qui est donné au travail. Et évidemment, les autorités françaises, le champ géographique, c'est la France. Bon. Mm-hmm. Mais alors, Frédéric, là, je vous pose une petite colle. On va prendre un producteur qui a 40% du marché et un distributeur qui a 20% du marché. Quel est celui qui est le plus dominant?
Il faut voir s'il est... J'ai envie de dire, c'est le plus gros... Ce serait plutôt l'industriel qui a la marge.
Ah oui, la marge la plus grosse.
L'outil de production et tout ça.
Oui, puis il a 40, alors Claude a 20. Oui, mais alors, vous voyez, si vous faites une segmentation bien fichue, bon, hormis des produits qui ne circulent pas comme le béton, mais pour des produits normaux qui circulent énormément, la définition du pays est beaucoup trop petite. La définition du pays, ça peut être le continent, voire le monde. Dès que les produits circulent, on les fait transporter, on les transporte comme on veut. Donc la définition du pays est trop petite. Donc la gars qui a 40% du marché français, il a peut-être 5% du marché mondial avec des concurrents plus gros.
Oui.
Alors que le distributeur, vous savez très bien que dans les distributeurs, on l'a montré, le champ géographique, c'est le canton, le département à la limite.
Ouais, le local,
voyez
ouais.
Bon. Et donc quelqu'un qui a 20% du marché français, il peut se trouver avec 80% d'un marché d'un département. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, il est complètement dominant. Donc ces notions de part de marché, elles demandent d'avoir du territoire. Et alors c'est exactement le problème Alstom. Vous évoquiez le problème Alstom, c'est que évidemment ils avaient des grosses parts de marché sur la France avec Siemens. Mais attendez, il y a les Chinois qui sont beaucoup plus gros.
Ouais.
Alors qu'est-ce qui se passe si on casse les concurrents?
Les
Chinois vont rentrer.
Le régulateur veut venir là, veut s'arrêter à la France ou à l'Europe.
Ou à l'Europe, mais c'est des marchés qui sont peut-être qui pour définition trop petite. Alors là, on va pas jeter la pierre parce que le problème est extrêmement compliqué, mais il est évident que la mondialisation et l'extension des champs géographiques posent un gigantesque problème aux régulateurs.
Ouais, parce qu'on estime quand même que si on n'avait qu'un seul très très gros concurrent, c'est lui qui va fixer les prix quelque part. C'est
oui,
ça,
mais sauf que si le marché est mondial, même s'il y a des concurrents chinois qui sont pas là, le prix pourra pas être idiot parce que le client sait très bien quels sont les prix en Chine. On a des gros clients dans ce cas-là qui sont malins. Donc on aurait fait Siemens Alstom, ils pouvaient pas mettre les prix comme ils voulaient parce qu'on sait très bien quels sont les prix. Et aux États-Unis, il y a le même truc. Donc c'est le problème du champ géographique qui fait qu'il faut faire extrêmement attention.
Même si on est bien placé en tant qu'industriel, entre industriel et
producteur. Et on rentre, si vous voulez, dans le sujet de la politique industrielle. Si vous voulez, les politiques de régulation, elles sont forcément liées à des politiques industrielles. Parce que vous avez des pays, je crois que vous connaissiez bien les Coréens, je crois que vous avez en Corée, il n'y a pas de problème à avoir un leader.
En Corée, c'est ce qu'on a vu. On est allé au salon au CES Las Vegas, on est allé au salon de Barcelone. Qui on voit? Samsung, LG, Hyundai, voilà.
Alors Samsung, il a 80% du marché des iPhones en Corée.
Oui.
Alors, moi, je connais beaucoup de trucs aussi avec le Japon. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon.
La Corée, il faut le rappeler, c'est 55 millions d'habitants, c'est pas loin de notre population.
Le Japon, vous voyez, c'est 130 millions, 125 millions d'habitants. C'est plus gros que la Corée, mais c'est aussi des petits pays par rapport à la Chine et aux US. Alors les Japonais, ils ont aucun problème à ce qu'un concurrent ait 80% du marché. Parce qu'ils ont une autre logique qui est plus proche du producteur. Ils considèrent qu'il faut que le producteur ait un marché très fort, géographique, quitte à ce que les clients payent des prix un peu plus élevés, mm-hmm. parce que c'est ça qui permet de conquérir le monde.
Ouais.
Et à ce moment-là, vous solidifiez les jobs.
Ouais, ce qui fait l'atout des Chinois, qui en plus, non seulement ils ont des monopoles dans leur pays, mais en plus avec une masse de clients, un volume de clients incroyable.
On va le voir avec les voitures. Mm-hmm. Les Chinois, c'est devenu maintenant les premiers producteurs de voitures électriques, mm-hmm. devant Tesla. Voyez, donc les choses changent à toute vitesse. Et alors, faut pas jeter la pierre aux régulateurs parce que le sujet est extrêmement compliqué. Mais il faut au moins qu'ils reconnaissent que le monde est quand même en train de changer. Et alors, si vous voulez, c'est un problème philosophique, Frédéric. Ça va plus loin. C'était la première slide,
oui.
défense du consommateur. Et vous savez que nous, on a deux bras. On a un bras gauche et un bras droit. Bon, le bras gauche, c'est celui qui boulonne. Enfin, moi, je suis gaucher, hein, bon. Le bras droit, c'est celui qui boulonne. Et puis, le bras gauche, c'est celui qui consomme. Mais si on freine trop le bras qui travaille, ben, très bientôt, il y aura plus de fric. Ouais. Pour que l'autre bras puisse consommer. Donc, vous avez tout le problème de l'équilibre entre le consommateur et le producteur. Alors, on a dit ça, c'est facile sur un studio de télé. Le problème, il est très compliqué. Mais encore faut-il qu'on le reconnaisse. Hein. C'est un sujet.
Oui. Mais ça veut dire qu'on peut pas, on peut pas avoir des champions mondiaux. Et si je regarde l'histoire européenne, c'est on peut pas vouloir des champions mondiaux et contraindre des parts de marché en Europe.
Exactement. Ouais. Le problème, si on donne trop de poids à la défense du consommateur, on va casser les producteurs. Et surtout, si on empêche des parts de marché trop fortes, avec des mauvaises définitions de métier. Hein. Parce que si le métier est mondial, si vous voulez, même avec un leader en France, les prix seront beaucoup plus bas. Parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut, à cause des concurrents étrangers. Donc le vrai sujet, vous voyez, c'est la bonne définition du territoire.
Et c'est ce qui explique un peu tous les phénomènes de désindustrialisation.
À mon avis, c'est un élément qui explique. Mm-hmm. Je pense que c'est sûrement un élément, d'autant plus que, si vous voulez, le producteur, il a beaucoup de capital. Donc si vous voulez faire ça tourne vite. Si vous voulez avoir du 15% de rentabilité sur le capital, il faut des marges de 20 avant impôt, 15% après impôt sur le capital. Alors qu'un distributeur, ça tourne à 10. Donc, il suffit d'une marge de 2 sur son capital. Donc on a toujours les producteurs qui ont des grosses marges, les distributeurs des petites, on dit, le méchant producteur. Mais simplement, il faut aussi tenir compte des rotations d'actifs. Hein. On a fait des tas d'émissions là-dessus. Donc, le métier est compliqué pour le producteur. Et je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience de tous ces facteurs.
Et justement, on parlait des cours, on en parle régulièrement. Quand même, tous les exemples que l'on prend, le numérique qui a tué l'Argentine, la bougie qui a été tuée par l'ampoule.
Vous lisez dans ma tête, vous ouvrez un nouveau champ absolument gigantesque, c'est la concurrence entre métiers. Hein? Jusqu'ici, on parlait de la concurrence dans le métier. Mmh. Bon, la concurrence entre métiers, c'est les diligences ont été tuées par le train, mais vous avez l'argentique tué par les appareils numériques,
l'éclairage
qui est tué par les diodes, et puis maintenant vous avez les appareils photo concurrencés par les smartphones. Donc, en fait, le monde actuel est caractérisé par un changement considérable de technologie. Et donc, en fait, tous les métiers sont toujours en train de... Ils connaissent une croissance. Mm-hmm. C'est vraiment graphique. En fait, les métiers, ils ont un cycle de vie. Hein, ils commencent à croître à toute vitesse quand ils remplacent. Puis après, ils se stabilisent. Puis à un moment donné, tôt ou tard, le marché tombe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cannibalisés.
Ah oui.
Alors, ce qui se passe, et ça, il faut que les autorités le comprennent bien, c'est qu'au tout début du marché, quand le marché croît, c'est là qu'on a beaucoup de concurrents. Ils arrivent de partout. Après, quand se stabilise, on commence à voir le nombre de concurrents qui tombent un petit peu. Mmh. Et puis, c'est en général, quand le marché tombe, que vous avez un très gros concurrent. Ouais.
Donc, c'est-à-dire que souvent, l'autorité de la régulation va intervenir quand le marché est déjà en train de sombrer.
Moi, je me rappelle. Alors ça, c'est le risque, si vous voulez. Ouais. Alors, encore une fois, on respecte l'autorité, il en faut. Mais il faut qu'elle soit éclairée. Et moi, je me rappelle toute ma vie, quand j'étais au BCG, jeune consultant, on allait travailler pour une boîte de Yonax dans le seau bassine cuvette. Mmh. C'est les boîtes qui faisaient en plastique. Et le plastique substituait le métal.
Oui.
Et il y avait une boîte magnifique qui s'appelait Léopold, je me rappelle toute ma vie, qui était le leader de la poubelle métallique. Alors, il avait 80% du marché. Hein. Mm-hmm. Sauf que son marché décroissait à 10% par an. Alors, est-ce qu'il faut s'exciter à le casser, vous voyez, le système? Alors, c'est un problème extrêmement compliqué. C'est que, en fait, la destruction créatrice est un élément de marché parfait. Donc, il faut favoriser la destruction créatrice, vous comprenez ? Hein, c'est tout le problème de la recherche. D'où ça vient, ces toutes petites boîtes ? C'est la recherche.
Mm-hmm.
Donc, faut favoriser la recherche.
Ça, c'est là où vous voulez en venir, c'est quand vous parlez créativité, parce que, justement, le monopole d'un produit décroissant, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est ce que vous essayez de dire, c'est que...
Mais il va financer, il y a du cash qui sort.
Il va financer la suite.
Alors, c'est tout le sujet très délicat de toutes les politiques de créativité. Alors, c'est De Gaulle disait toujours, est-ce qu'il faut financer des chercheurs ou récompenser les trouveurs?
Ouais.
Vous savez la belle phrase de De Gaulle. Et De Gaulle était plutôt pour récompenser les trouveurs.
Ouais.
Comment est-ce qu'on récompense un trouveur? C'est avec des brevets de longue durée. Mais qu'est-ce qu'un brevet? Un brevet, c'est un monopole.
Mm-hmm.
Un monopole qu'on donne à la personne qui a trouvé pendant 20 ans. Vous voyez? Bon. Et donc, vous vous rendez compte, le sujet, c'est que pour créer la concurrence, il faut donner des monopoles. Et alors, si vous voulez, la vraie concurrence, c'est à la fois une concurrence dans le métier, les courbes d'expérience, mm-hmm. et c'est une concurrence entre métiers. Parce que regardez le dessin là, qu'on a fait. Vous voyez, vous avez une vache à lait.
Donc là, on reprend, on rappelle notre matrice où d'un côté, on part en part de marché.
Voilà.
Alors, ceux qui ont des faibles... Alors, d'un côté, c'est les parts de marché, de l'autre, c'est la croissance.
Voilà.
Faible part de marché,
à
peu
gauche,
de croissance, ouais. on a un produit mort. Forte part de marché, croissance en molle, on a notre produit vache à lait.
Voilà.
Ça continue à... Et puis, on a nos produits qui sont sur des marchés à forte croissance. Et des forts volumes où là, on est en train d'aller les monter. Et puis ceux où le marché, on n'a pas beaucoup de parts de marché, mais le marché commence à croître, là, c'est les dilemmes. Donc on
exactement.
Est un peu sur ces
donc on caractérise, vous venez de caractériser en fait l'ensemble des entreprises, suivant les deux dimensions, part de marché et croissance. Donc ça, c'est un énorme atout de BCG, puisque l'économie s'est fait. Et en fait, en gros, les vaches à lait, donc c'est la fameuse boîte qui décroissait en crachant
mais
beaucoup de
prix. Mais qui continue à...
Qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles envoient leur argent dans deux cas. Il y a la première stratégie, qui est une stratégie dans laquelle on envoie l'argent de la vache à lait pour pousser le dilemme en faire une étoile.
Mm-hmm.
Donc là, vous êtes dans le métier et on met du fric pour lui faire devenir étoile du vache à lait.
Devenir gagner davantage de part de marché.
Et l'autre cash, où on le met dans les recherches et développement, et ça invente des étoiles qui arrivent par le ils arrivent en haut à gauche. Ça, c'est, et donc, en fait, dans l'économie, il faut bien s'assurer qu'on met suffisamment d'argent pour financer des étoiles.
Mm-hmm.
Surtout aujourd'hui, où il y a des inventions dans tous les sens.
J'attendais que vous preniez ces termes, parce que qui dit invention dit brevet, c'est ça?
Brevet, voilà.
C'est le brevet qui devient important.
Et ben c'est le brevet
qui est toujours important.
Et alors le brevet, c'est un monopole accordé à celui qui a trouvé.
Mm-hmm.
Donc les autorités de la concurrence, il faut vachement faire gaffe. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, les brevets, ça dure trop longtemps. Il faut surtout tout de suite donner ça. Sauf que si jamais on donne des brevets trop courts, il n'y a plus d'intérêt à investir. Mm-hmm. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, on va passer à côté de tas de créativité.
Ah oui.
On a besoin de... Moi, je pense que l'économie est faite d'un mouvement complet. On pourrait faire des émissions là-dessus, si ça vous intéresse, parce que c'est ça que ça amène, et qu'on a besoin d'un équilibre, et qu'il faut surtout mettre beaucoup d'argent en R&D, parce que, surtout dans une période actuelle, avec toutes les découvertes, ça va stimuler tout ce petit monde, et donc c'est aussi dans les autorités de la concurrence de s'occuper de ça.
Alors, c'est un peu appel, là, pour prendre le temps, je le cite en ouverture, donc 1,8 milliard d'euros d'amende infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante et tout ça, dans la gestion de ces plateformes. Pour vous, c'est quoi là? C'est une atteinte à la liberté? C'est protection du consommateur?
Je suis un gros admirateur d'Apple, parce que quand on voit tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité, avec la division par un million des smartphones, etc. Donc, il faut aussi raison garder.
On le rappelle, aller voir une émission, on dirait si on achetait un smartphone aujourd'hui, au prix de l'enfant, il coûterait
100 millions. Vous avez un truc qui est sans effet d'expérience, de ce que vous avez là, ça vaut 100 millions. Hein,
mm-hmm.
Et il y en a 4 milliards dans le monde, quand même. Hein, bon. Mais, avec ceci étant dit, ça permet d'amener un autre sujet très important, c'est que dans le domaine du net, les courbes d'expérience sont extrêmement pentues. Pourquoi? Parce que le coût marginal du nouveau client, c'est zéro. Une fois que vous avez le software, rajouter un client de plus, c'est pas grand-chose, vous voyez? Et donc, c'est des courbes d'expérience très pentues. Et quand les courbes d'expérience sont très pentues, the winner takes all. Et donc, on a naturellement des positions gigantesques. C'est pour ça qu'on a les GAFA. Hein, c'est à cause de la pente d'expérience dans les métiers du net. Bon, alors c'est là aussi qu'il faut quand même un peu de bon sens. Évidemment, quand ils sont si forts, ils peuvent tout écraser.
Ouais.
Donc, faut quand même leur dire, attendez, doucement les basses, faut laisser de la variété. Et s'ils sont trop durs sur les conditions d'accès aux plateformes, ça va probablement empêcher des tas de petites découvertes de montrer. Donc, faut trouver un équilibre, vous voyez.
Mais en même temps, si on a des pentes fortes, ça veut dire que les prix, pour le consommateur, c'est intéressant, parce que les prix baissent de façon forte.
Évidemment. Donc, il faut aussi aider, vous voyez. Mais donc, en matière de... Mais vous savez, les incendies naissent de petites étincelles. C'est-à-dire que les trucs qui vont très, très loin, ils ont démarré tout petits. Donc, il faut laisser dans l'économie un foisonnement, et il faut laisser les petites boîtes commencer à foisonner, parce que dans ces petites boîtes, ben, il y en a beaucoup qui tomberont, et puis il y aura peut-être l'idée de génie qui ira très loin. Donc, il faut surtout laisser une économie foisonnante. C'est pour ça que, personnellement, je crois qu'il faut quand même laisser un peu de variété, un peu de désordre. Hein, c'est un désordre constructif. Hein.
Donc, on a une courbe d'expérience qui oblige il faudrait que le régulateur regarde un peu la courbe d'expérience.
Il faut que, évidemment,
pour ne pas casser un marché qui est déjà en chute.
Voilà.
Casser un marché qui est déjà en train de trop progresser.
Non, mais surtout, oui, Frédéric, c'est que la courbe d'expérience donne des puissances énormes aux plateformes. Une fois qu'on a fait une plateforme, le coût du client marginal, donc on a des puissances colossales. Ben, il faut laisser les petits venir. Il ne faut pas forcément trop étouffer tout le monde. Alors, ça fait un peu de foutoir.
Oui.
Ça peut, à court terme, déranger un leader parce qu'il va être attaqué par un petit concurrent, etc. Mais d'un autre côté, on a besoin... Il y a de l'intérêt général, c'est de faire poisonner l'économie. Vous voyez.
Mais
et ça, c'est le régulateur qui a son rôle à jouer.
Oui, et puis au final, c'est le consommateur qui décide.
Et le consommateur qui décide, bien sûr. Vous voyez. Bien sûr. Vous avez raison, c'est... Bah voilà, écoutez, on va terminer, Frédéric. On va terminer, Frédéric, sur la sagesse.
Eh bien, merci, Xavier Fontanet, pour ce cours BFM Stratégie. On a parlé d'antitrust, de stratégie. Voilà, vous êtes sur un marché régulé. Eh bien, regardez bien comment mener votre stratégie, parce que, justement, avec la courbe d'expérience, vous allez peut-être voir que ça peut vous être bénéfique. Pour ça, il faut réussir à grappiller des parts de marché et rester parmi les leaders. Merci, Xavier Fontanet. Alors, c'est une émission à tiroir, hein, parce qu'on a plein de tiroirs à ouvrir. On aura l'occasion de se revoir et d'en reparler.
Tout à fait. Le sujet est compliqué, donc faut traiter.
Eh bien, merci à vous d'être venu nous expliquer tout ça. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu le début de l'émission, elle est en replay, en podcast, mais je vous la conseille en replay, parce que comme il y a les graphiques, ça vaut vraiment ces dessins, ça vaut très bien avec le discours qui est approprié, avec celui de Xavier Fontanet. Merci d'avoir
été avec nous, Xavier.
Merci de nous avoir suivi. Excellente semaine sur BFM Business.
BFM Stratégie sur BFM Business.